Chapitre 29e, Cap Horn. Ouragan, naufrage. Depuis notre départ de la Nouvelle-Hollande, le vent nous avait poussés avec une si gracieuse courtoisie que nous n'eûmes pas un seul instant à craindre, dans notre passage à travers les monts de glace, de nous voir drossés par ces rapides courants qui entraînent du pôle, en les en détachant, ces masses énormes contre lesquelles se sont ouvertes tant de navires. Au contraire, quoique toujours sous ce ciel gris et morne, si fréquent dans les régions élevées, nous fûmes poussés presque toujours vent arrière, et si la présence des bancs glacés ne nous avait pas forcé la nuit à une attention de chaque instant, cette longue traversée, qui d'un seul coup nous faisait franchir l'océan Pacifique de l'ouest à l'est, eût été une des plus paisibles et des moins fatigantes pour l'équipage. Cependant, la fragrante corvette cinglait toujours, ayant sous sa quille de cuivre plusieurs milliers de brasses d'eau, et s'avançait majestueusement parée de presque toutes ses voiles vers le Cap Horn, dont le nom seul rappelle une des nuits les plus orageuses du monde et dont les rocs menaçants ont vu tant de naufrages étouffer tant de sanglots. Doubler le Cap Redoutable était pour nous un jour de fête. Nous touchions, pour ainsi dire, au terme de notre pénible et laborieuse campagne. Nous apercevions déjà là-bas à l'horizon, cette Europe, dont plus de 3 années nous séparaient, et nous sillonnions de nouveau l'Atlantique, dont nous avions gardé un doux souvenir. Aussi, tout était espérance, et si nos calculs se trouvaient exacts, nous devions, dans la journée même, voir la côte sud d'Amérique, vers laquelle nous avancions toutefois avec prudence. « Terre !» crie la vigie attentive, et chacun de nous est bientôt debout pour cette nouvelle émotion. Quelques pas séparent le gaillard d'arrière du gaillard d'avant du navire. Certes, vous ne voyez pas mieux de la poulaine que du couronnement, et cependant, par un instinct qu'on ne peut expliquer, dès que la terre se dessine devant vous, il vous est fort difficile de ne pas dépasser le grand mât et même celui de misaine pour mieux observer, pour mieux étudier le paysage qui va se dérouler à vos yeux. C'est ainsi que lorsqu'un navire donne une grande bande, vous ne pouvez vous empêcher d'appuyer fortement du côté opposé, comme si vous aviez le pouvoir de l'équilibrer. La terre se dressait, bizarre, fantasque, et par un bonheur inouï, le soleil nous inondait de ses rayons les plus purs. L'air était rayonnant, rayonnante était la côte, variée par 1000 reflets et par des ombres diversement jetées. Plusieurs oiseaux visiteurs, venant des cimes de la terre de feu jusqu'à la portée de notre voix, poussaient un cri et s'en retournaient après avoir salué notre bienvenue, tandis que le gigantesque albatros nous quittait d'une aile rapide et allait chercher un horizon plus vaste pour son aile infatigable. La côte se présentait toujours avec ses variétés si pittoresques, avec ses anses défendues par des rochers à pic pareils à ceux qui nous avaient déjà frappés à Pilstar. Ce sont autant d'écueils avec lesquels il serait fort imprudent de jouer. Et tandis que nous pouvions distinguer les nuances les plus douces de cette nature grandiose, plus loin, sur la terre ferme, des colonnes de fumée montant verticalement nous avertissent de la présence de ces patagons qu'on a déchus de leur taille gigantesque, mais qui n'en sont pas moins des hommes à part, des natures privilégiées. Une cascade descendant en nappe blanche d'un morne élevé venait d'être dépassée. Déjà se présentait à notre vue la large ouverture que nous cherchions avec tant d'impatience. C'était, selon toute probabilité, notre dernière relâche, et nos cœurs se délectaient à l'aise. « Nous y voilà, mouille, vite, mes calepins, mes pinceaux, et à terre !» Chacun de nous se prépare, chacun de nous attend avec impatience que les canaux soient mis à flot. Tout à coup, la brise se tait, et la mer se tait avec elle, comme si la main de Dieu venait de s'apesantir sur les eaux. Le baromètre est encore muet. Que se passe-t-il donc autour de nous? Le ciel est toujours d'azur, les ombrages toujours riants. Tout à coup, d'ardents flocons de fumée s'échappent de la côte, tourmentés par une force invisible. Des nuages arrondis se ruent sur les mornes grondants, se déchirent dans les aspérités des blocs granitiques, reviennent sur leurs pas, dociles à l'impulsion qu'ils reçoivent, et s'échappent un instant après pour se perdre au loin à l'horizon qu'ils embrassent et obscurcissent. La terre se voile. La mer, loin de clapoter, ainsi que nous l'avions déjà remarqué dans les rats de marée, s'enfle avec majesté. Elle bondit, elle menace, elle se dresse comme une montagne, tend le câble, soulève la corvette, la fait retomber de tout son poids et tord l'ancre de fer au fond des eaux. Tout est triste et solennel dans cette menace de la nature. Tout est effrayant devant nous, autour de nous, Les préparatifs de notre descente sont suspendus. Nous sommes tous sur le pont, l'œil cloué à la terre qui s'efface, prend une teinte cuivrée. Et rien ne nous dit encore que l'ouragan veuille se déclarer.
Le navire chasse, nous chassons sur les rochers,
crie la voix du maître, quel œil sur le plan de sonde qu'il vient de jeter.
Coupe le câble!
Le câble est coupé et le chaos commence. Une minute, une seule minute d'hésitation et nous étions perdus. Un seul instant de retard et nous tombions brisés, broyés contre les blocs redoutables qui nous emprisonnaient. Par un bonheur inouï, par une habile manœuvre, nous parvînmes cependant à sortir de l'anse appelée du bon succès et qui faillit devenir notre tombe. Ici l'ouragan commença ses ravages et son œuvre de destruction. Ici commença la lutte la plus ardente que jamais navire eut à soutenir. L'ancre était perdue au mouillage que nous venions de quitter. Nul espoir de la revoir ne nous restait, et la fuite devant la rafale fut la seule ressource qui nous devint possible. La mer tourbillonnait selon le caprice du vent, qui faisait en se jouant et en un clin d'œil le tour de la boussole. C'étaient des vagues rudes comme des montagnes, rapides et bondissantes comme des avalanches, larges et profondes comme d'immenses vallées. Une mer à part au milieu de tant de mers déjà parcourues, nous prenant par les flancs et nous jetant d'un seul bond sur le dos d'une lame éloignée, nous ressaisissant infatigables et nous couvrant de bout en bout pour nous écraser de tout son poids. Et au milieu de tous ces chocs, de toutes ces cascades, la corvette criait, prête à s'ouvrir. Les cordages sifflaient et la foudre grondait dans l'espace. Mais était-ce le rugissement des vagues, les éclats du tonnerre, le sifflement des manœuvres qui étouffaient la voix et rendaient la scène plus lugubre? Que faire, quand chaque homme cramponné à un cordage était plus souvent sous l'eau que dessus? À qui obéir quand tout commandement devenait inutile? L'océan, tantôt sombre comme les ténèbres, tantôt éclatant comme un incendie, n'était plus un ennemi contre lequel il fallait tâcher de lutter. C'était un maître, un dominateur devant qui nous n'avions plus qu'à courber la tête. À chaque secousse de sa colère, nous croyions que c'était toujours le dernier cri de sa menace. Et lorsqu'après avoir été lancés dans l'abîme, nous nous trouvions encore debout, nous ne tardions point à voir s'avancer une vague nouvelle qui nous enlevait comme un flocon d'écume pour nous vomir plus tard contre une vague rivale. Nous étions sans puissance, sans volonté, attendant qu'une dernière secousse finît nos angoisses ou qu'une lame nous engloutit dans son passage. Un matelot se précipite, c'était Oriez, déporté échappé du port Jackson. Seul de tout l'équipage, il avait osé grimper et interroger l'horizon. Il nous fait signe que la terre est là, là, devant nous, qu'il l'a vue et qu'elle va nous briser. C'est notre dernière heure. Chacun de nous cherche à voir, à la lueur des éclairs, si en effet la terre que nous croyons longer est bien là, pour recevoir nos cadavres. On croit la voir, on croit la reconnaître à la lumière de la foudre. C'en est donc fait. Et la mort nous saisit au milieu de l'ouragan. On essaie de manœuvrer, de jeter à l'air un bout de voile. La voile n'est plus qu'une charpie. Adieu donc à la vie qui nous échappe, car voilà une ligne blanche devant nous sur laquelle nous courons sans pouvoir l'éviter. Alors, une lame immense nous prend sous la quille et nous fait traverser l'obstacle sans le toucher. Qu'était-ce donc? Cependant, la colère des flots et celle des vents étaient loin de s'apaiser. Mais le navire, déjà vainqueur de tant d'horribles ébranlements, semblait ne vouloir pas encore se lasser de la lutte, et de temps à autre redressait sa tête orgueilleuse. D'après nos calculs, le détroit de Lemaire devait être dépassé, et puisqu'il nous restait de la mer à courir, le danger s'effaçait. Le ciel aussi paraissait fatigué de tant de fureur, et les nuages ne tourbillonnaient plus indécis entre dix vents opposés. Parfois aussi une teinte bleue, douce comme un sourire, jetait l'espérance dans nos cœurs, et la régularité de la marche des masses vésiculaires qui roulaient vers l'horizon et passaient notre zénith rapide comme l'éclair, nous disait que la colère de la nature était une colère dans l'ordre des événements, et qu'il ne fallait plus maintenant que de la persévérance pour en triompher. Il y eut longtemps encore turbulence dans les airs et sur les flots, mais les derniers soupirs de la tempête nous laissaient respirer, et nous pûmes enfin livrer nos voiles au vent. Plus l'ouragan avait pesé avec rage sur le navire en péril, plus nous mettions d'ardeur à l'insulter, car désormais seul il pouvait nous atteindre et la terre, son auxiliaire redoutable, n'était plus là-haut devant nous pour lui venir en aide. Avides d'un peu de repos, nous mîmes bientôt le cap sur la Patagonie et nous regardions comme un bonheur cette relâche qui devait, selon toute probabilité, nous offrir quelques curieux épisodes. Tant de ridicules fables ont couru sur cette race d'hommes exceptionnels, auprès desquels nous ne serions que des myrmidons. On a raconté tant de merveilles sur la vie nomade de ces géants humains que nous pressions de nos voeux les plus fervents le moment où nous devions laisser tomber l'ancre sur une des nombreuses rades de leurs côtes si rétives à toute civilisation. La brise continuait à nous être favorable, les courants nous aidaient dans notre route, et nous devions, selon toute apparence, voir la terre le lendemain même au lever du soleil. Hélas, l'ordre de virer de bord fut donné, et avec lui s'envolèrent toutes nos espérances de bonheur. Nous fîmes voile vers les Malouines, et après avoir jeté la sonde à plusieurs reprises, sans trouver fond, nous revirâmes de bord et nous mîmes de nouveau le cap sur l'Amérique pour reprendre bientôt la route abandonnée et la continuer jusqu'à notre dernière relâche. Quelques observations sur la profondeur de la mer et sur la direction des courants dans ces parages avaient sans doute été prescrites à notre commandant, mais nous, qui n'étions pas toujours dans le secret de ses travaux, nous ne pouvions que nous plaindre d'une hésitation si hostile à notre impatience. La marine n'étant autre chose qu'une guerre permanente contre tous les éléments, nous savions déjà, par les rudes épreuves que nous avions subies, qu'il fallait saisir aux cheveux toutes les occasions favorables offertes aux navigateurs. Et puis encore, épuisés par une traversée de plus de 2000 lieues, nous sentions vivement le besoin du repos, surtout après des courses de plus de 3 années. Le 12 mai, les terres Falkland se dressèrent devant nous. Une brume épaisse nous dérobait la côte, que de légères et rapides éclaircies nous montraient âpres, bizarres, sans végétation. Mais ce devait être là notre dernière ou avant-dernière relâche. Nous nous retrouvions dans cet Atlantique si connu et qui nous avait si bien accueillis à notre départ, et la joie se dessinait sur tous les visages. Nous pouvions déjà tendre la main à nos amis de là-bas. Nulle terre, nul continent ne se posait entre nous et ne nous restait à visiter. Il n'y avait plus que de la mer à courir et les flancs de notre robuste Uranie avait mille fois prouvé qu'il ne craignait pas le choc des vagues irritées. Nos livres de voyage étaient consultés afin que chacun de nous puisse se faire d'avance une idée exacte des plaisirs qui nous attendaient. De patriotiques discussions surgissaient. Les uns appelaient Falkland le groupe d'îles que nous allions visiter. Les autres le nommaient archipel des Malouines, soutenant qu'il était constaté qu'elles avaient été découvertes par un pêcheur de baleines de Saint-Malo, et l'on comprend que toute justice ne présidait pas à la solution de la question en litige. Les Anglais nous avaient trop longtemps montré la richesse des deux mondes. Ils avaient trop orgueilleusement étalé à nos regards humiliés leurs vastes et magnifiques établissements indiens pour que nous ne fussions pas naturellement portés à leur disputer ce groupe d'îlots dont au reste, ni nous ni eux, n'avions pris possession solennelle. Le 13, la côte se dégagea du réseau compact des nuages qui la voilaient. Et nous pûmes à notre loisir en étudier les 1000 caprices. Elle était basse, nue, coupée de petites criques, et sur les premiers plans s'élevaient des roches isolées où des myriades de pingouins et de plongeons, debout et immobiles, semblaient insensibles à notre arrivée chez eux. Nous les punîmes plus tard de leur insolente impolitesse. Nous fîmes une sanglante ébahide de ces roches isolées et de cette terre silencieuse, et il y eut bien des jours de deuil dans les familles de ces hôtes inhospitaliers. Mais n'anticipons pas sur les événements qui vont se presser autour de nous. Toute la nuit fut consacrée à louvoyer et à nous tenir au large. Mais le lendemain, le soleil s'étant levé dans toute sa splendeur, nous pûmes nous rapprocher et chercher enfin la baie protectrice qui devait nous abriter. Partout ici des eaux fatiguées par de récentes tempêtes, partout une mer inquiète, querelleuse et une côte si profondément tailladée qu'on voit bien que les flots ont joué le principal rôle dans ces déchirements. Les oiseaux amphibies, gravement assis sur les pitons rapprochés de nous, ne cessaient ni leurs cris ni leurs stupides et réguliers mouvements de tête. Nous pouvions, sans le secours de nos longues vues, suivre leurs lentes évolutions, et sur la plage de sable, nous remarquions aussi d'énormes taches noires, qui ne pouvaient être que des phoques ou des éléphants de mer, auxquels nous nous promettions bien de faire une guerre à outrance. Chacun de nous se taillait sa besogne, chacun de nous préparait ses armes et comptait d'avance ses victimes, ainsi qu'on le fait toutes les fois qu'on va combattre un ennemi qui ne sait pas se défendre. Ainsi se dit-on brave alors que l'on n'est que cruel. Mais là-bas, dans le lointain, la terre fait défaut. Une large baie se dessine et nous présente une ouverture facile. La brise est soutenue, nous allons voir arrière toute bonnette dehors, qu'on ne tarde pas à rentrer et nous courons lestement vers le port. À notre droite, formant la pointe nord de la baie,
des brisants se montrent et bruissent contre une roche détachée de terre. Près d'elle, une seconde roche moins élevée lève sa tête, et près de celle-ci, une troisième surgit, couverte sans doute par les hautes marées. Nous les évitons, et toutes les cartes sont muettes sur d'autres récifs. Il fallait donc laisser courir. La brise mollit un peu et nous filions toujours nos 8 nœuds de la façon la plus régulière. Il était 4 heures. L'Uranie, dressant sa tête avec fierté, semblait se pavaner dans ses allures d'indépendance, et le fond de la rade nous ouvrait son large et tranquille bassin. Tout à coup, crac, le navire s'arrête incrusté sur une roche et se penche. Le silence le plus profond règne parmi nous. Immobile, immobile, et la mer fouette les flancs de la corvette et chacun se regarde de ce regard qui veut dire « tout est fini ». Et un énorme débris de la quille flotte autour de nous. À cet aspect, un triste murmure se fait entendre. « Silence !» dit le sifflet du courageux maître d'équipage, et tout se tait de nouveau, excepté le flot vagabond, qui n'a d'ordre à recevoir que de Dieu seul. L'infatigable maître Calfa monte, tenant la sonde à la main. « L'eau nous gagne, capitaine, le navire est en péril. Il faut armer les 4 pompes royales. »« Aux pompes !» s'écrie le capitaine, et nous voilà tous à l'ouvrage. Cependant, nous ne pouvions rester plus longtemps dans cette horrible position. Et tandis qu'une partie de l'équipage lutte avec une ardeur infatigable contre le terrible élément qui nous dévore, l'autre met à l'eau la grande embarcation ainsi que la yole et le petit canot. On oriente les voiles de manière à masquer partout afin de faire pirouetter la corvette, de la faire culer et de la détacher ainsi de la roche qui la retient captive. Le succès couronna cette manœuvre et nous cheminâmes, mais sans trop d'espérance pour l'avenir, car le progrès des eaux était effrayant. Une pompe se brise, on la répare. Un mât crie, on le consolide. La corvette, envahie, donne une bande affreuse. On ne s'en émeut point, et chacun à son poste ne songe qu'au devoir qui lui est imposé. Le maître Calfa monte de nouveau sur le pont, et d'une voix calme et solennelle, il annonce que tout espoir est anéanti. L'arrêt fatal est connu. Chacun se le répète tout bas à l'oreille. Chacun peut compter les instants qu'il lui reste à vivre. Car l'eau s'est emparée du faux pont et menace déjà la batterie. Mais nous cinglions vers le mouillage. Le navire emportait dans sa plaie le bloc madréporique, qui était encore un obstacle au passage des eaux. Le sillage le fit tomber, la batterie se trouva bientôt attaquée. Il s'agissait de savoir où était la plaie du navire, afin de s'assurer si on pouvait y appliquer un cataplasme, selon l'énergique expression de Marchais. Le commandant fit mettre en panne. Le gabier Marchais se jeta à l'eau à 3 sous par lieu. Comme il disait, il plongea, visita la carène, reparut de l'autre bord et s'écria « Le trou est sur la joue, on peut le boucher. » À l'instant même, 2 matelas sont placés sur le pont. On les coule l'un à l'autre, on les double d'un prélard pour opposer un plus sur obstacle au flot. Et l'infatigable Marchais plonge encore une fois, tenant une amarre à la main, et applique les matelas sur la brèche du navire, tandis qu'on les assujettit de chaque porte au banc. Cette manœuvre audacieuse nous protégea pendant quelques instants, mais c'en était fait, nous étions perdus sans ressources. L'eau nous avait trop profondément envahis, il fallut céder à la fatigue. Les bras tombèrent de lassitude, et sans que l'énergie en fût abattue, on cessa de travailler. La nuit était venue, sombre et silencieuse, et nous plongions à chaque instant dans l'abîme. On mouilla pourtant. M. Dupéret eut ordre d'aller dans le petit canot chercher un point de la côte où l'Uranie put être jetée sans s'ouvrir. Il revint et nous pilota. Mais les courants rapides nous drossèrent, et après quelques moments d'hésitation, le solide trois-mâts, avec qui nous avions sillonné toutes les mers, tomba sur le flanc pour ne plus se relever.